Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Père, nous te disons merci parce que ta parole est puissante. Seigneur, elle nous révèle le monde invisible. Elle nous révèle, Seigneur, ce que nous ne voyons pas avec nos yeux. Et qui pourtant est plus réel que le monde que nous voyons avec nos yeux. Je prie, Père, pour ce peuple. Pour qu'ils aient de plus en plus conscience de ta présence, mais aussi conscience du monde qu'ils ne voient pas, afin qu'ils puissent utiliser les lois du royaume de Dieu pour amener l'influence du royaume partout où ils passent. Que le salut puisse germer partout où il passe. Que la guérison puisse être apportée partout où il passe. Que la délivrance puisse être amenée partout où il passe. Que la prospérité vienne partout où il passe. Parce qu'ils auront compris le monde invisible. Père, je te remercie. Parce que nous avons besoin de révélation sur ta parole par rapport à ce monde invisible. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Nous allons continuer dans ce domaine du monde invisible. Et je vous rappelle que Dieu a créé d'abord le monde invisible et ensuite le monde visible. Il est très important d'avoir une compréhension spirituelle de ces choses-là. Parce que beaucoup de chrétiens, quand on leur dit « Oui, tu es sauvé, tu me parles de Jésus », mais qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé? Nous voulons savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé. Explique-nous que tu vas au ciel, c'est quoi le ciel? Et puis des fois, un certain nombre de chrétiens se laissent embarquer dans des histoires à propos du diable, des démons, tout ça, et on leur raconte tout un tas de choses. Et nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a que nous ne voyons pas mais que la parole de Dieu décrit. Ça nous permet d'abord de témoigner avec beaucoup plus d'efficacité, aussi renforcer notre espérance, parce que vous ne pourrez jamais être brûlant d'amour pour Dieu sur cette terre si vous ne comprenez pas votre espérance, si la parole de Dieu ne se révèle pas à vous concernant votre éternité. Parce que vous pouvez dire oui, merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Et 30 secondes après dire oui, d'accord, mais bon, bah, le jour où je vais mourir, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je vais aller au ciel, oui, d'accord, mais. Alors que la parole de Dieu nous révèle tellement de belles choses sur ça. Des choses extraordinaires qui se passent dans le monde invisible. Donc nous avions fait une étude sur le trône, je vais y revenir très brièvement. On a vu les visions, l'Ancien Testament, particulièrement les visions d'Ézéchiel, les visions de Daniel et d'Ésaïe. Et nous avons remarqué que dans le ciel, il y a un trône, qu'il y a bien sûr des êtres qu'on appelle des chérubins. Ézéchiel nous en donne une description incroyable.
Ésaïe nous montre qu'il y a aussi des êtres angéliques, des séraphins.
Mais
on ne voit personne autour. Dans les visions de l'Ancien Testament, on voit personne qui est là autour du trône de Dieu. Et en mettant en parallèle les visions du Nouveau Testament,
eh
bien, nous voyons que dans ce troisième ciel, parce que je vous rappelle qu'il y a trois cieux et nous les avons définis, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on revoit, Jean voit bien le trône. Il décrit bien les chérubins. Mais à côté de ça, lui, il commence à nous montrer qu'il y a autre chose. Il nous montre 24 anciens. Et on s'est posé la question, qui était-il? Et on semble avoir des éléments de réponse dans la parole de Dieu. Les 12 moins Judas. Et certainement Paul. Donc ça fait les premiers 12. Mais sur 24, il en faut encore 12. Et on peut penser que ce sont les héros de l'Ancien Testament. Et puis la Bible nous décrit dans Hébreux 12 qu'il y a des myriades d'anges. Et il y a aussi les rachetés. Tous ceux qui ont été rachetés en Christ, qui sont morts en Christ, qui vont directement devant le trône de Dieu. Et la Bible dans le Nouveau Testament nous décrit une Jérusalem, une ville avec des maisons, avec une rivière, avec des collines. Et là nous avons découvert qu'il y a beaucoup de choses dans le ciel. Et ce qui est merveilleux, c'est que le jour où tu vas quitter ton corps, si tu es né de nouveau, ton esprit et ton âme, c'est-à-dire ton être intérieur, eh bien, vont monter vers le ciel, au troisième ciel, dans la présence de Dieu. Et toutes ces choses qui sont décrites, tu les verras. Ah, que le Seigneur soit béni. Ça, c'est notre espérance,
frère,
d'aller là-haut. Et Paul disait, la mort physique m'est un gain. Je préfère être auprès du Seigneur. Mais pour vous, je suis ici sur la terre pour exercer mon ministère. Mais il dira bien, je suis pressé des deux côtés. Alors ensuite, nous nous sommes posé la question à propos des anges. Parce que la Bible nous montre qu'il y a des anges. Qu'il y a des anges au troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu, mais pas seulement. Il va y avoir des anges au deuxième ciel qui représentent c'est tout l'univers au niveau des planètes et des étoiles. Mais aussi il y a des anges sur la terre qui exercent un ministère. Et nous avons vu que ces anges sont hiérarchisés, que Dieu d'ailleurs est appelé Yahweh Sabaoth.
Sabaoth.
Et ça veut dire le Dieu des armées. Et l'armée des anges. C'est ce que ça sous-entend. Donc nous savons que les anges sont hiérarchisés. Et nous savons que dans cette hiérarchie, il y a des chefs des anges. Des anges donc puissants qui sont souvent appelés des archanges. Et nous avons vu aussi qu'ils ont des noms. Nous avons regardé un certain nombre de ces noms et la Bible nous en donne un certain nombre, entre autres Gabriel, entre autres Michael, et puis il y a aussi dans Apocalypse 9:11 un ange qui s'appelle Abaddon, qui veut dire destructeur. C'est la seule révélation que nous avons sur les noms des anges. La Bible nous donne seulement une révélation sur trois noms d'anges. Alors nous avons vu que les anges sont des esprits, c'est ce que Hébreux nous dit au chapitre 1, des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et nous avons remarqué que les anges ont un rôle extrêmement important sur la terre. D'abord, rappelez-vous que les anges n'ont pas d'ailes, comme on les a représentés si souvent. Les seules créatures angéliques de très haut rang qui ont des ailes,
Nous
l'avons vu clairement, ce sont les séraphins et les chérubins. Ce sont les seuls qui ont des ailes. Et ils sont autour du trône de Dieu pour garder l'intégrité du trône de Dieu. Faites attention parce qu'aujourd'hui, justement, on va parler de ça. Et ce qui se passe, c'est que sur la terre, les anges ont un rôle extrêmement important. Pour ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les gens à qui on prêche
Christ,
aussi des rôles de protection. Mais ils n'ont pas le rôle de prêcher l'évangile. C'est clair que nous avons un ange gardien, nous l'avons vu. Chacun d'entre nous, et c'est très clair dans la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que quand quelqu'un voit un ange, par exemple, ça a été le cas de l'apôtre Jean,
eh
bien, l'ange a refusé que Jean se prosterne devant l'ange. Nous avons vu aussi que les anges, quand quelqu'un meurt, c'est eux qui nous portent au ciel. Et ça, c'est leur rôle aussi. Nous verrons que quand un être humain meurt, que son esprit et son âme sortent, il est escorté soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Nous allons parler aussi de ce monde invisible, des esprits humains. Et je vous ai dit qu'on lèvera cette espèce de gros mensonge de la sorcellerie à propos de l'invocation des morts. Parce que la parole de Dieu est très précise par rapport à cela. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des choses un peu bizarres parce qu'ils ont vécu certaines expériences. Mais rappelez-vous que vous ne construisez pas une doctrine sur une expérience. Vous construisez une doctrine sur la parole de Dieu. Et toute expérience doit être confirmée par la parole de Dieu. Que vous connaissiez beaucoup le monde invisible, mauvais, c'est-à-dire satanique, avant d'être sauvé,
ou pas,
et bien l'important c'est que vous remettiez ce que vous croyez en lignée avec la parole de Dieu. Parce que j'ai vu beaucoup de dérapages et dans beaucoup de ministères des dérapages sur ce sujet. On ne construit pas une doctrine sur une expérience. On construit une doctrine sur la parole de Dieu et les expériences que nous pouvons faire avec Dieu doivent être obligatoirement confirmées par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. J'ai vu bien des gens s'écarter de la saine doctrine parce qu'ils avaient fait une expérience, en avaient mis leur propre interprétation en essayant d'amener l'écriture dans leur expérience et ensuite de construire des ministères entiers ou faire des doctrines. Je vous en donnerai un exemple par la suite. Donc c'est très important de comprendre ces fondations ici. Vous devez connaître des fondations à propos du monde invisible. Alors, les anges aussi vont jouer un rôle prédominant sur la fin des temps. Par exemple, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, la Bible va nous montrer que particulièrement les archanges, et on verra dans l'Apocalypse aussi des anges puissants, ils vont jouer un rôle prédominant sur la fin des temps. La Bible nous dit ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ngo kuko umwami wacu ubwiwazoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga
hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka.
On voit la voix au son de la trompette d'un archange.
Ngo inyuma y'akamo hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru.
Donc on voit qu'il va y avoir un signal qui est donné au travers d'un archange. Et je pense que vous n'ignorez pas que 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous montre le retour de Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. C'est le passage de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, quand vous lisez l'Apocalypse, je vous rappelle brièvement, l'Apocalypse, il y a une introduction donc, où Jean voit le Seigneur Jésus-Christ au chapitre 1. Chapitre 2 et chapitre 3, eh bien, il y a le message aux sept églises. Et nous voyons aussi, au travers de cela, que des anges sont impliqués dans les églises, les vraies églises. Nous avons remarqué que dans les vraies œuvres de Dieu, il y a un ange au-dessus. C'est très clair dans la parole de Dieu ici. Il y en a certains qui ont vous dit non, ce n'était pas un ange, c'était un serviteur, etc. Dans le grec, c'est clair, c'est le mot ange. C'est pas un messager, parce que c'était Jean le messager, c'est Jean qui a reçu un message de la part d'un ange.
Jean.
Chapitre 4 et chapitre 5, vous allez voir comment il y a la gloire de Dieu dans le ciel. Nous avons étudié ces chapitres en partie. Le trône de Dieu, etc. etc. Et à partir du chapitre 6, dans l'Apocalypse, il y a le déclenchement de la tribulation. L'Église est enlevée et c'est là où on voit le déclenchement de la tribulation. C'est pour ça d'ailleurs qu'au chapitre 5, Jean se lamente parce qu'il voit personne qui va ouvrir le livre où il y a les sceaux. Où il y a des choses qui sont scellées de toute éternité. Et l'image de ce livre qui va être ouvert par l'agneau, c'est-à-dire par Jésus, qui est le seul qui est digne, c'est de dire que ces choses qui étaient réservées comme jugement vont se mettre en action. L'Église ne sera plus là sur la terre. Et pendant ces sept sceaux qui vont être ouverts, et bien les anges vont jouer un rôle prédominant. Par exemple, regardez le chapitre 7. Chapitre 7. Il est dit après cela, verset 1, « Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, un des sceaux du jugement, bien sûr. Il cria d'une voix forte aux quatre anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas, etc. etc. »
Ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima asemera n'ijwi rirenga abarira abamarayika bane bahawe kono n'isi n'ikiyaga ati ntimugire ico mugira n'ibindi n'ibindi.
Donc là il va y avoir quatre anges puissants qui vont exercer certaines choses à propos de la tribulation. Chapitre 8, verset 1, c'est la même chose. Je prends juste quelques exemples, mais il y en a bien d'autres dans l'Apocalypse. Quand il ouvrit le septième sceau, c'est-à-dire le septième sceau du jugement de Dieu, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges, vous voyez, les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
Quand il y a eu un silence, kimatanije ico gitabo habagacerere mwijuru nk'igihimba cisaha mbona abamarayika ndwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi.
Alors ici on voit à plusieurs reprises, je vous dis, j'ai pris que quelques exemples, des anges qui vont avoir un rôle prédominant, qui ont un rôle de jugement sur la terre. Ça, nous le voyons clairement dans l'Apocalypse, lorsque l'Église sera enlevée. Pendant les sept ans de la tribulation, eh bien, Dieu va exercer ses jugements au travers de ses anges.
Imana izoca imanza zayo biche mu bamarayika
bayo. Je vous rappelle que nous sommes dans la période de la grâce.
Ndakwibutse aha turi mu gihe cy'ubuntu.
Pendant la période de la grâce,
mu gihe cy'ubuntu,
Dieu n'exerce pas ses jugements sur la terre.
Imana nta manza iri kwiracira abantu
kwisi. Tout ce dont on accuse le Seigneur aujourd'hui.
Ibintu byose bagiriza Imana ngo niri
kwirabikora. Ah, s'il y avait un Dieu, pourquoi y aurait le tremblement de terre en Haïti? Où des innocents sont morts? Pourquoi est-ce qu'il y a eu le tsunami il y a quelques années où il y a eu 200 000 personnes qui sont mortes? Pourquoi il y a des guerres là du côté du Soudan? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? S'il y avait un Dieu, ah, s'il y avait un Dieu, il pourrait arrêter tout ça. Ben, nous verrons que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a un mauvais gestionnaire, le pire des gestionnaires sur la terre. Et on va le pire des gestionnaires sur la terre. Et on verra d'où ça vient tout ça. Parce que ça fait partie de la connaissance que vous devez avoir de la parole. Par contre, il y a un moment où quand l'église va être enlevée, là, la terre va déguster, entre guillemets. Là, c'est vraiment les anges de Dieu qui vont descendre et frapper les hommes. Un bon nombre se donneront quand même à Jésus parce qu'ils verront que nous avions raison. Que ce qu'on leur avait annoncé d'avance, ça s'accomplit. Mais la terre sera dans un chaos total où il y aura un affrontement gigantesque entre la puissance de Dieu et les puissances sataniques comme jamais la terre n'a connu. Mais
ce
n'est pas mon sujet, ça sera mon sujet quand je ferai l'Apocalypse du premier verset au dernier verset dans les séries du jeudi. On en parlera à ce moment-là. Par contre, ici on voit que les anges vont exercer des jugements. Au niveau de la tribulation, la Bible nous montre clairement que chaque jugement que Dieu va envoyer sur la terre, ça va être exécuté par des anges qui vont venir frapper des hommes. Ça a été le cas lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Les 10 plaies ont été exercées par des anges qui sont venus frapper. Maintenant, nous sommes dans la période de la grâce. Aujourd'hui, Dieu n'intervient pas de cette façon-là sur la terre. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et il nous laisse cette porte ouverte à nous qui étions des païens, c'est-à-dire qui n'étions pas la souche d'Abraham. Il nous donne cette opportunité de devenir son peuple pour justement aller au ciel et après ressusciter d'entre les morts et être avec lui pour l'éternité. C'est la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu qui donne la vie éternelle à tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés, qui croient que Dieu le Fils est venu il y a 2000 ans en chair, qui s'est donc fait homme et qu'il est mort à leur place personnellement. Et quand quelqu'un a la foi dans son cœur, qu'il accepte de se repentir de ses péchés, alors le miracle du salut va se produire dans son cœur. Parce que je vous rappelle que Jésus n'est jamais venu apporter une religion, mais il est venu apporter une relation vivante.
Qui
commence au travers de quoi? Et bien au travers du miracle de la nouvelle naissance. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé ou parce qu'on va dans une église, mais on devient chrétien par un miracle dans notre cœur. Recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Alors maintenant, il y a un certain nombre de questions qu'on pourrait se poser. Et en fait, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit qu'au niveau des anges, il y a bien sûr les bons anges qui sont avec Dieu et qui marchent en faveur des hommes, qui veulent hériter du salut. Mais évidemment, il y a aussi, et on le sait tous, les mauvais anges. Le diable,
Satan
et les démons. Alors, on voit apparaître ça dans l'Écriture. Et il y a toute une histoire que nous devons connaître à propos de l'origine de tout cela. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, ben, mais c'est quand même Dieu qui a créé le diable. Oui, c'est vrai. Mais le diable n'était pas dans cette condition-là quand Dieu l'a créé. Tout ce que Dieu crée est parfait. Même la terre, quand elle a été créée, n'était pas dans cette condition-là. Même quand les hommes ont été créés, ils n'étaient pas dans cette condition. Il y a quelque chose qui est venu transformer le diable. Et au début, il ne s'appelait pas le diable. Regardons le livre des commencements, c'est la Genèse. Vous devez connaître cette histoire. Vous devez l'apprendre et la connaître. Parce qu'il y a une histoire des commencements. Il est dit au Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel, ou littéralement les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans ce verset, il y a une grande richesse. En fait, au commencement, on pourrait traduire ça dans un passé éternel. Et il est dit Dieu. Le mot Dieu qui est utilisé pour la première fois, le deuxième mot de la Bible, c'est le mot Elohim. Et Elohim, ça veut dire tout puissant, mais c'est un pluriel. C'est-à-dire, c'est un pluriel. Je
ne
sais pas, en Kirundi, ça va faire bizarre, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, en fait, au commencement, Dieu, ou on pourrait dire Dieux, c'est-à-dire Dieu pluriel. Et après, il est dit créa. Alors, le verbe créer dans l'Ancien Testament, c'est le verbe hébreu bara. Et ce verbe est utilisé seulement avec Dieu comme sujet, dans les phrases, dans tous les versets. Ça veut dire que ce verbe est exclusivement réservé à la personne de Dieu. Ce verbe n'est jamais réservé à l'homme. Nulle part dans l'Ancien Testament, vous allez avoir que l'homme bara, c'est-à-dire crée quelque chose. Vous ne verrez jamais non plus qu'une créature angélique ou même le diable, l'ennemi de Dieu et notre ennemi, ou ses petits copains, les démons, vont créer quelque chose parce qu'ils n'ont pas de pouvoir créateur. Ils ont peut-être en partie un pouvoir de transformation, mais pas de création. Parce que créer, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Alors que transformer, c'est prendre quelque chose qui existe d'une certaine nature et l'amener à une autre forme ou faire, améliorer cette chose-là. L'homme est capable de transformer. Le diable en partie peut transformer certaines choses. En partie, je dis bien. Mais en aucun cas, ni l'homme, ni les autres créatures angéliques, bonnes ou mauvaises, ne peuvent créer sans avoir reçu une autorité divine pour le faire. Et l'homme même ne peut pas créer par lui-même. Seulement Dieu peut créer, c'est-à-dire amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit au commencement, Dieu pluriel. Sous-entendu, bien évidemment, le premier verset de la Bible nous sous-entend la Trinité. Pourquoi ? Parce qu'après, il est dit Dieux, pluriel, créa. Et il ne s'est pas dit créer au pluriel. Le verbe n'est pas au pluriel ici, il est au troisième personne du singulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un seul Dieu, mais on voit qu'il y a une pluralité. Et la Bible montre clairement, déjà dès le premier verset de la Bible, cet aspect de la Trinité, c'est-à-dire Dieu est un seul Dieu révélé en trois personnes. Alors il est dit ici qu'au commencement, Dieu, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, créa, bara à partir de rien, les cieux, nous avons vu qu'il y a trois cieux, on les a expliqués, et la terre. Ça, il y a combien de temps? On ne sait pas exactement. Les scientifiques nous montrent que l'univers aurait 13 milliards d'années environ. D'après les calculs qu'ils auraient faits, bien sûr, les scientifiques ne croient pas dans un créateur, ils croient au hasard. C'est la plus grande stupidité scientifique que j'ai jamais entendue de ma vie d'ailleurs. Parce qu'il n'y a aucune probabilité que les choses soient ordonnées comme cela. Par hasard, c'est impossible. La probabilité est nulle. Donc en fait nous savons que Dieu a fait ces choses-là et a ordonné cela d'une façon incroyable. L'infiniment petit et l'infiniment grand posent les plus gros problèmes aux scientifiques. Ils se sont retrouvés avec des lois qui ne sont pas applicables pour notre vie de tous les jours. Plus on cherche petit ou plus on cherche grand dans l'univers, plus aucune des lois que nous utilisons tous les jours, comme la loi de la gravité, comme toutes les lois, ce qu'on appelle la physique classique, qu'on étudie tous à l'université et dans les écoles secondaires, ne peuvent pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que Dieu a fait certaines choses dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Pour limiter les choses. Parce qu'il y a un moment où on ne peut plus aller plus petit et il y a un moment où on ne peut plus aller plus grand.
Alors au
verset 2 de la Genèse, il va nous être dit quelque chose. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et en fait, la terre était informe et vide. Ce n'est pas une bonne traduction. La meilleure traduction, ça serait la terre devint, du verbe devenir informe et vide. En fait, ici, c'est vraiment des expressions très particulières qui sont utilisées. La terre devint informe et vide, du verbe devenir, c'est la meilleure traduction qu'on trouve. Informe et vide, ça veut dire en gros en hébreu, c'est l'expression tohu et bohu. Vous êtes d'accord? Apparemment, il y a des contestations. Je vous laisserai voir entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, si vous êtes d'accord sur l'expression. Peu importe. Alors, en fait, l'idée tohu et bohu ici, qui ont été traduits en français informe et vide, ça veut dire littéralement un désert. Du désordre. Une désolation. Comme si, en fait, il y avait quelque chose qui était parfaitement ordonné. Et d'un seul coup, c'est devenu désordonné. Quelque chose qui était, entre guillemets, habité, où il y avait des choses, devient désertique. Donc la question qu'on peut se poser, qui est tout à fait légitime, c'est de se dire, Dieu crée les choses dans l'ordre, et au bout d'un moment, ça va devenir un désordre. Si quelque chose est ordonné par Dieu et créé par Dieu, c'est parfait parce que Dieu crée tout parfait. Tout ce que Dieu a créé à l'origine avait son doigt de sa puissance qui a touché. Sa sainteté qui a touché. Donc il y a une perfection divine qui a été faite au départ, créée au départ, manifestée dans le monde visible et aussi dans le monde invisible. Par contre, la Bible nous dit la terre. Remarquez bien qu'il n'est pas dit la terre et les cieux devinrent informés vides. Mais sous-entendu, la terre seulement. Donc, il est évident qu'entre le premier verset de la Genèse et le deuxième verset, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais quoi ? Eh bien, nous allons en découvrir certaines traces. Parce que la Bible va nous donner des éléments de réponse. Je dis bien des éléments de réponse. La Bible ne va pas tout nous donner. Pourquoi est-ce que la Bible ne nous donne pas tout? Je ne sais pas. Mais je vous garantis, quand j'irai au ciel et que je rencontrerai le Seigneur Jésus, je dirai: Seigneur, s'il te plaît, mets-moi le DVD de ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2. Et j'espère que vous serez dans la salle de cinéma avec moi. On se fera plaisir. Entre guillemets, plaisir, c'est-à-dire on saura le mystère qui ne nous a pas été entièrement révélé ici. Mais c'est clair qu'il s'est passé quelque chose. D'autre part, nous savons, et les scientifiques nous le disent, que la terre a subi tout un tas de chaos. Ils n'arrivent pas à expliquer. Ils ont fait des recherches géologiques. Ils ont trouvé des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. On a tous entendu parler des dinosaures, des mammouths. Et tout cela, c'était des gros animaux qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et les scientifiques sont tous d'accord sur une chose. Ils sont d'accord qu'il y a eu une disparition soudaine. Ça, au moins, ils sont d'accord là-dessus. Ils ne sont pas d'accord sur d'autres choses. Mais j'ai pas mal regardé ce genre de commentaires qu'ils font. Le tronc commun, c'est qu'ils vous diront tous, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a un moment sur la terre, tout a disparu. Les dinosaures ont disparu subitement. Tous ces animaux qui étaient énormes comme des mammouths ont disparu soudainement. Et quand ils font des recherches dans la géologie, ils trouvent par exemple des petits animaux aussi qui sont fossilisés, ce qu'on appelle.
Dans du
calcaire, entre autres,
c'est-à-dire
dans de la pierre,
munsi,
où on voit l'empreinte de l'animal. On voit aussi beaucoup d'empreintes de feuilles, de petits arbres, etc., etc., toutes sortes d'arbustes. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Que s'est-il passé? La Bible est claire. Dans Ésaïe 40, verset 18, la Bible va nous montrer quelque chose.
Non,
c'est pas 18, ça va être 15 alors. J'ai fait une erreur sur mon... 45, excusez-moi, 45, 18.
Pas 45,
18, excusez-moi. Ésaïe 45, 18. Regardez bien ce qu'il est dit. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie. Et regardez bien ce petit morceau de verset ici. Qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. C'est un des mots ici, déserte, le mot désert ici. C'est exactement le même mot hébreu qui est utilisé dans informe et vide.
Dans
la Genèse. Donc la Bible est claire. Dans Ésaïe 45, il nous est dit, quand Dieu a créé la terre, elle n'était pas déserte, ce n'était pas un chaos. Il y avait quelque chose dedans. Parce que tout ce que Dieu crée est parfait. Dieu ne crée pas un chaos, Dieu ne crée pas quelque chose en désordre. Donc la terre va devenir un chaos. Va devenir un désordre. Pourquoi ? Quand est-ce que ça se serait passé ? Est-ce que la Bible nous parle de ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que la Bible nous donne comme information sur cette période entre le moment où Dieu crée les cieux et la terre, où il y a une création qu'on appellera la création pré-adamique, c'est-à-dire avant Adam, où, je le signale et je le répète, où il n'y avait pas d'homme créé à l'image de Dieu. Parce que la Bible est claire dans 1 Corinthiens 15. La Bible nous dit clairement que Adam a été le premier homme. Et quand nous regardons, nous trouvons qu'entre Adam et nous, il y a environ 6000 ans d'histoire de l'humanité. Ce qui correspond à peu près à ce que les scientifiques appellent, avec guillemets, l'homme moderne, où ils disent que l'homme moderne serait apparu il y a environ 10 000 ans. Et du côté de la Mésopotamie, du côté de l'Irak, et quand vous regardez le jardin d'Éden, et ben, cette histoire se passe il y a 6
000
ans, et ça se passe du côté de l'Irak, en Mésopotamie. Donc ça correspond, effectivement, la science confirme tout à fait la Bible dans ce domaine-là. Par contre, la science, évidemment, nous dira, non, la Bible dit faux. Parce qu'on va nous dire, non, l'homme est venu à partir d'une cellule qui est venue par hasard. Et les deux cellules, il y en a une autre qui est venue aussi par hasard. Et elles se sont dit bonjour, elles se sont dit on va s'associer ensemble. Et puis on ne sait pas pourquoi, il y a une troisième qui est apparue par hasard. Et il y en a X qui sont apparues par hasard.
Et
on est d'un petit animal qui est venu par hasard. Un plus grand animal a été issu, a évolué vers cela. Par hasard. Puis c'est devenu un singe par hasard. Et après c'est devenu un homme par hasard. J'arrive pas à comprendre comment des gens qui se disent être docteurs peuvent nous raconter de telles stupidités. Des fois je regarde des reportages scientifiques et je l'assure, je les regarde, je me dis mais ces gens-là ils s'appellent docteur machin, docteur truc, qui sont de l'université machin truc des USA. Mais c'est une plaisanterie ou quoi ? Une plaisanterie. Tout ça pour dire qu'il n'existe pas de Dieu. Mais c'est la plus grande des stupidités. Vous ne pouvez pas faire des affirmations sur des hypothèses seulement. C'est les premiers principes de la science. Vous devez prouver une loi. Et là, ils violent une loi scientifique et ils disent c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que la Bible nous révèle ? Cette période entre le verset 1 et 2 de la Genèse semble assez longue. Certainement des milliards d'années. On ne sait pas exactement, la Bible ne nous dit pas. Par contre, la Bible va nous montrer un certain nombre de choses. Elle va nous parler d'une créature angélique de très haut rang qui se serait rebellée contre Dieu. Et pas seulement lui, mais un certain nombre d'anges qui ont été déchus, que la Bible dit, comme la Bible les appelle. Nous avons deux passages particuliers. On va lire dans Ézéchiel 28 et ensuite dans Ésaïe 14. Et dans Ézéchiel 28, nous allons voir que Ézéchiel va être transporté par l'esprit prophétique. C'est très très intéressant d'étudier Ézéchiel. Ézéchiel a vraiment des choses absolument fabuleuses. Il a vécu des expériences dans l'onction de Dieu d'une façon incroyable. Si vous voulez apprendre plus sur l'onction de Dieu, étudiez le prophète Ézéchiel. Très intéressant comment Dieu, l'esprit de Dieu va se répandre sur Ézéchiel. Expérience dans l'esprit qu'Ézéchiel va faire. C'est très intéressant. Alors en fait, il commence, Dieu lui dit au verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Juste cette partie-là, s'il te plaît. Tyr et Sidon, ce sont des villes un peu plus haut, là, en Israël. Et en fait, au départ, il commence sur, apparemment, de parler d'un prince dans le naturel, un certain prince de Tyr. Et au bout d'un moment, l'esprit prophétique va l'amener à recevoir des révélations sur quelque chose qui s'est passé d'un étranger de très haut rang. Au verset 11, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alors jusqu'à présent, on se dit, tiens, il doit parler effectivement du roi de Tyr. Mais regardez juste après, tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Si vous ne savez pas quelle couleur ça a, allez au Congo et on vous expliquera tout ça. Ils connaissent toutes les pierres. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Regardez bien ce qu'il est dit ici après, verset 14. Tu étais chérubin. Ah, chérubin. Mais chérubin, c'est une créature angélique, rappelez-vous. Les chérubins et les séraphins. Tu étais chérubin aux ailes déployées. Tiens, ça nous remontre encore ça, qu'ils ont des ailes. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc là, on voit que la Bible va nous parler d'un être angélique de très haut rang, chérubin aux ailes déployées ou chérubin protecteur ou oint.
Urumva usomye amajambo yose ubona ko bibiri tugira ko hariho umukerubi asizwe amavuta ashanje amababa.
Donc là on voit que la Bible nous parle d'un de ces chérubins.
Bibiri tugira rero umwe mu bakerubi
que nous avons étudié au travers des visions d'Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10 et aussi d'Apocalypse chapitre 5.
Abo twize mu vyashuro Yohana tukabiga no muri Ézéchiel mbere.
Qui garde 1 10 chapitre 1, chapitre 10, Ézéchiel.
N'Ézéchiel, gice chambere, gice chicumi.
Et aussi Apocalypse, chapitre 5.
N'Ézéchiel, gice chagatano.
Donc nous avons décrit ces créatures.
Aho twari twavuze kubijanye n'abakerubi.
Et là, la Bible nous montre clairement
que
ce chérubin
yuko uyu mukerubi
était placé en Éden.
Yari muri Eden.
Éden, ça veut dire jardin de délices.
Eden bisobanura ngo ni tongo ry'amahigo.
Ce n'est pas le même jardin que Adam et Ève connaissaient. Dieu l'a appelé du même nom apparemment. Mais littéralement, le Eden en hébreu, ça veut dire jardin de délices. Si vous préférez, endroit paradisiaque. Où la gloire de Dieu se manifeste à
100%.
C'est ça que ça veut dire. Donc là, on voit, il commence à prophétiser sur ces êtres, un chérubin. Rempli de sagesse, parfait en beauté, qu'il a mis donc en Éden, placé sur la montagne de Dieu, et avec des pierres étincelantes, etc. Il y a tout un tas de gloire. Là, en fait, Dieu nous montre la gloire. C'est comme autour du trône. Il y a un peu ce genre de description ici. Mais quand nous continuons à lire le texte, au verset 15, il est dit, tu étais intègre dans les voies, dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, a été trouvée chez toi. Donc on voit que d'un seul coup, il y a quelque chose qui va basculer.
turabona ko mu kanya gato ari kintu gihindutse.
Et il est dit au verset 16, je lis en français, par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus, je te chasse de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, sous-entendu, de ma face, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur, je te jette par terre, ou littéralement à terre, c'est-à-dire sur la terre. Et je te donne un spectacle roi, etc., etc. Et là, il va revenir dans le domaine du naturel. On voit que l'esprit prophétique va le transporter. D'abord, le Saint-Esprit lui révèle des choses sur l'actuel prince de Tyr. Et après, il l'amène, il le transporte en parallèle sur le monde spirituel de la chute de ce chérubin, qui est Satan, bien sûr. Qui a péché contre Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu, et que Dieu a jeté vers la terre. Ésaïe
14.
On voit dans Ésaïe 14 un passage parallèle. Et dans ces deux passages, la Bible va être très claire. Et les commentateurs bibliques, les théologiens sont tous d'accord sur une chose. Que ce soit Ézéchiel chapitre 28, ou Ésaïe chapitre
14,
ils sont tous d'accord qu'on parle bien de la chute du diable, qui ne s'appelait pas le diable au départ. Alors, il est dit, verset 11, ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes, sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Verset 12, quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant. Cette expression astre brillant, c'est Lucifer. C'est ça que c'est dans le texte original. Fils de l'aurore, tu es battu à terre ou vers la terre. Toi, le dompteur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité vers le séjour des morts, au plus profond d'une fosse.
Ngo ewe kuntu korotse uvuye mu ijuru wanyenyeri yo mu rubungu bungu abyo bisobanura Lusifero wa mwana w'umutwenzi ewe ingene uciwe ugacika hasi wewe watsinda mahanga wari waribariye mu mutima ngo nzoduga nje mu ijuru unkuze ingoma yanje isumba inyenyeri z'Imana uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'uburaruko uti nzoduga ndenge aho ibicu bigarukira nzoba nk'isumba byose.
Donc on voit un peu le même schéma.
Urabona vya bindi nyene rero ngaha.
Être angélique.
Ikinya okinyabwingo c'umumarayika.
De très haut rang.
Wo hejuru cane.
Dans ces deux passages nous montrent que c'était un chérubin.
Batwereka ko yari umukerubi.
Et qui fait quoi?
Akoze iki?
Essaye de prendre la place de Dieu. Mais qui peut prendre la place de Dieu? Qui peut oser prendre la place de Dieu? Puisqu'il y a un fossé entre la créature et le créateur. Il y a un tel fossé entre la créature et le créateur que comment est-ce qu'une créature, même la plus puissante, parce que les chérubins sont les créatures les plus puissantes, peut se permettre de dire je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. Et Dieu va aller où alors? C'est vraiment une bouffie d'orgueil. Rempli d'orgueil. Dieu va partir, va dire, ah, je te laisse la place. Mais la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Quel orgueil dans le cœur du diable. De Lucifer, de cet astre brillant au départ. Qui d'un seul coup va pécher contre Dieu. Mais la Bible va nous montrer aussi d'autres choses. Dans Jude chapitre 1 verset 6. On va lire deux autres passages. Attendez. On va d'abord lire Apocalypse 12 verset 3. Apocalypse 12 verset 3. Et 4, c'est surtout le verset 4 qui va m'intéresser. Quand vous lisez l'Apocalypse, ne pensez pas que vous lisez seulement des choses qui vont se passer. C'est-à-dire des choses qui sont prophétisées vers le futur. Non, l'Apocalypse nous révèle des choses passées, présentes, à l'époque où Jean a reçu la révélation, mais aussi futures. Mais l'Apocalypse n'est pas seulement des révélations sur des choses futures. Relisez les premiers versets de l'Apocalypse. Ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Et au chapitre 12 de l'Apocalypse, en fait, l'Apocalypse est faite d'une succession de visions qui ne sont pas du tout chronologiques. Ça, c'est l'erreur de beaucoup quand ils lisent l'Apocalypse. Tu commences à lire un chapitre, puis un autre, puis un autre. Et tu penses que ça se suit dans le temps. Pas du tout. Apocalypse 12 va revenir en arrière. En tout cas, c'est ce que beaucoup de théologiens pensent et personnellement, je le pense aussi. Il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. On sait que ça, c'est le symbole du diable. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes représentent les 10 nations qui vont se liguer ensemble, etc. On expliquera ça dans la tribulation. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, on peut se poser une question. Qu'est-ce que veut dire ce symbolisme ici, sa queue, la queue du dragon, c'est-à-dire du diable? Jeta, pris le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors il y en a, vous savez, ils interprètent ça littéralement. Mais si on prend littéralement, une étoile c'est quoi? Une étoile, c'est une immense boule de gaz qui se consume petit à petit. Et qui disparaît. Et d'ailleurs, les étoiles que nous voyons actuellement, la lumière qui nous parvient des étoiles, elles sont tellement éloignées que la plupart d'entre elles n'existent même plus maintenant. Parce que le temps que la lumière nous parvienne, elles sont tellement loin que certaines, ça représente des millions d'années pour que la lumière nous parvienne jusqu'à nous, nos petits yeux, là. Et en fait, ces étoiles-là n'existent quasiment plus pour la plupart. Toutes celles que vous voyez dans le ciel. Et il y en a qui naissent et qui meurent tous les jours. Donc en fait, on ne peut pas exprimer ça littéralement. Parce que d'abord, même une seule étoile, c'est beaucoup plus gros que la Terre. Alors s'il y avait un tiers des étoiles du ciel qui descendaient sur la Terre, mais je ne sais même pas comment elles se rencontreraient, on ne verrait même plus rien sur la Terre. Non, c'est un symbole ici. C'est le symbole, et je le pense personnellement aussi, que c'est là où le diable aurait attiré un tiers des anges avec lui dans sa chute. Parce que la Bible va nous parler qu'il y a eu des anges déchus qui ont péché. Jude chapitre 1 verset 6. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse, il faut retourner en arrière. Vous avez l'Apocalypse et hop, le livre d'avant c'est Jude. Alors, verset 5, il est dit, on va lire à partir du verset 5, il est dit, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et après avoir tiré le pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Verset 6, « Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges, regardez bien, les anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. On va lire le verset 6 en Kirundi seulement, s'il vous plaît.
Ngo, ibarindira kuzokwicirwa kwiteka byo kumunsu hambaye bari mu minyororo idashira no mu mwiza.
Donc on s'aperçoit d'une chose.
Alors turabona ikintu kimwe.
C'est que il y a des anges qui ont, ce que la Bible dit, perdu leur dignité.
Ils
n'ont pas gardé leur dignité et ils ont abandonné leur propre demeure. Là où Dieu les avait placés dans un ordre. En fait, ils se sont rebellés contre Dieu. Et c'est clair, à leur tête, il y avait ce chérubin, cet astre brillant, ce Lucifer, qui les a emmenés dans leur chute. Mais il faut savoir qu'il y a eu une immense bataille. Une immense bataille entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et c'est Apocalypse 12 qui nous en parlait.
Je crois que c'est
au verset 1, on va revenir, Apocalypse 12. Verset suivant, verset 1, après verset 2, verset 3. Voilà. Donc ici, il va y avoir une immense bataille qui va se produire. Pourquoi ? Parce que en fait, le diable va se rebeller contre Dieu. Va essayer de prendre la place de Dieu. Il y a des anges qui vont pécher, qui vont le suivre. Qui vont devenir les mauvais esprits. Mais il va y avoir aussi dans 2 Pierre 2, verset 4. La Bible va nous montrer qu'il va y avoir une partie de ces anges qui vont être capturés. Il
n'y
a qu'une partie des anges qui ont péché contre Dieu.
2
Pierre 2, 4. Qui vont être capturés. Donc, d'après ce qu'on comprend dans le schéma global, Dieu a créé toutes choses parfaites. Sur la terre, il y avait une création dont on ne connaît pas tout. Il n'y avait pas d'homme créé à l'image de Dieu, ça nous le savons. Mais il y avait d'autres choses, d'autres créatures. Ensuite, tout était parfait. On voit que un chérubin se rebelle contre Dieu, emmène des anges avec lui, qui pêche contre Dieu. Et là, la Bible nous donne encore un élément ici. Il est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché pendant la rébellion de Satan, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jour du jugement.
Ariko ikabarokorera ikabakororera kuzimu ikabashira mu byobo by'umwiza ngo barindigwe kuzocirwa kwiteka.
Il y a une partie de ces anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont été capturés et mis dans un abîme. Le mot abîme, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire une prison des esprits. Mais il est évident qu'il y a d'autres esprits, mauvais esprits, donc des anges déchus, qui sont encore en activité. Et ce sont bien sûr les démons. Et leur domaine d'activité va être le premier ciel, c'est-à-dire autour de la terre, et au deuxième ciel aussi. Parce que nous allons voir qu'il y a un royaume dédoublé. Royaume physique et royaume spirituel. Nous allons voir qu'il y a certaines principautés dont la Bible nous parle, qui ont des régions sur la terre. On va voir ça et on va voir quel est notre rôle par rapport à ces esprits sataniques. Parce que cela aussi, c'est très mal compris de la part du peuple de Dieu très souvent. Il faut que nous comprenions l'écriture, frères et sœurs. Donc il y a eu cette immense bataille dans le ciel. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Bien sûr, il n'a pas pu. Il a entraîné une partie des anges avec lui. Ces anges ont chuté et une partie de ces anges ont été capturés et mis dans un abîme, l'abîme des ténèbres. Mais une autre partie de ces anges sont toujours entre guillemets en liberté. Et c'est les démons qui sont aujourd'hui en train de déranger la terre. Au premier ciel, et aussi dans le deuxième ciel. Donc ça, nous avons un certain nombre de choses. Maintenant, qu'en est-il de la terre? Parce que la Bible nous dit que la terre devint un chaos. Il est clair que le diable a mis le désordre sur la terre à ce moment-là. Et au bout d'un moment, Dieu a arrêté ce désordre. Nous ne savons pas exactement jusqu'où ça a été. La Bible ne nous révèle rien là-dessus. Mais on sait que la Bible... La terre a vécu un chaos. D'abord parce que la Bible nous le dit. Les scientifiques nous le confirment. Et il y a une chose que les scientifiques nous disent et qui correspondrait vraiment au schéma que je suis en train de vous donner ici sur l'histoire de la terre. C'est qu'avant que ce qu'ils appellent l'homme moderne apparaisse, je dis bien ce qu'ils appellent l'homme moderne, que nous savons que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève, les scientifiques nous montrent qu'il y a une période glaciaire. Dieu a gelé toute la surface de la terre. Et je vais vous en donner une preuve dans l'écriture. On va terminer par cela. La Bible nous dit donc la terre devint informée vide, on a étudié. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et regardez bien ici, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verbe se mouvoir ici, littéralement dans l'hébreu, langue de l'Ancien Testament, c'est littéralement couver, comme une poule va couver ses œufs. Une meilleure traduction aurait été, en comprenant le schéma biblique bien sûr, que l'esprit de Dieu faisait quoi? En fait, il réchauffait les eaux, dégelait la terre. Parce que la terre a été entièrement gelée. Dieu a envoyé son jugement sur la terre à un moment. Et je vous le dis, tout ce que nous... Vous savez, quand vous prenez votre voiture, vous consommez de l'essence. Et cette essence est issue du pétrole. Le pétrole, c'est de la décomposition de matière organique depuis des millions d'années. Et je pense que c'est l'humour de Dieu. À chaque fois que tu roules en voiture, tu es en train de consumer complètement l'ancienne création qui a été pervertie. Pense-y quand tu es dans une voiture. Nous sommes en train de consumer complètement les restes de la création qui s'est rebellée contre Dieu. Donc c'est une chose qu'il faut savoir. Dieu a jugé la terre. Parce que apparemment le diable faisait des choses sur cette terre très bizarres. Maintenant je vous dis, on n'a pas plus d'informations. C'est le maximum qu'on peut tirer de l'écriture et comprendre du schéma divin. Mais à ce moment-là, nous savons que le diable s'est rebellé, donc celui qui n'était pas le diable au départ. Il a emmené un tiers des anges, semblerait-il. Une partie de ces anges déchus qui sont devenus les démons ont été capturés. Mais une autre partie sont là en action sur la terre, donc sur le premier ciel, et aussi sur le deuxième ciel. La prochaine fois, je vous montrerai un certain nombre de choses sur comment sont organisées en partie les principautés démoniaques. Parce qu'aussi, un de mes objectifs dans ces enseignements, c'est de vous montrer des influences. Parce que l'homme est influencé et il influence les autres. Et nous verrons les sources d'influence des humains. Parce que c'est parce que tu es influencé que tu prends des décisions. Et quand tu prends ces décisions, tu vas vers des directions. Et c'est là où tu formes, où tu forges ta destinée. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils disent, je veux faire les choses de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le monde des influences.
Et quand
tu commences à comprendre ça, tu peux vraiment comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.